En ce lundi, Daniel Aber revient et parle avec Blaise van der Linden du vote par le Conseil de sécurité de l'ONU, un vote qui a entériné les accords de Sharm el-Sheikh. Voici Daniel Aber avec Blaise van der Linden.
Daniel Aber, bonjour.
Bonjour Blaise et bonjour chers amis.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Alors Daniel, la semaine dernière, le vote de Conseil de sécurité de l'ONU a eu lieu. Il a entériné les accords de Sharm el-Sheikh. C'est-à-dire que ces accords ont passé une épreuve, ils ont été acquiescés par tous les pays. Quelle est votre analyse ?
C'est assez enthousiasmant parce que c'est un moment décisif. L'habitude, c'était que le Conseil de sécurité soit bloqué par le veto d'un ou d'autre camp. Cette fois, les Russes et les Chinois se sont abstenus, ce qui veut dire qu'ils ont donné leur accord, hein, c'est ça que ça veut dire, et que tous les autres, les 13 sur 15 qui ne sont pas abstenus, ont voté pour. Donc c'est une espèce de vote unanime et enthousiaste, et ce qui veut dire au fond que ce plan américain, ce plan Trump, est devenu le plan de la communauté internationale.
Oui, vous avez l'habitude de le rappeler souvent dans nos conversations, Daniel. La Chine et la Russie sont souvent en désaccord avec ce que proposent les États-Unis.
Ariel
Comment
Margot,
ce succès
bonjour.
A-t-il
bonjour
été obtenu
Blaise. Merci d'être avec
Écoute,
nous ce matin sur Radio Judaïka. Alors ce matin, on va parler
d'un
projet qui date depuis 2018
de la américaine.
Maintenant.
Ils ont compris pendant
Youth
les négociations
que vous représentez aujourd'hui sur notre plateau emmène 30 à 40 enfants d'école non juive dans le cadre de la marche de la ville à
ce qui manquait dans les accords
pour
du 15 octobre, c'était
montrer à ses
la mise en avant suffisante de la question palestinienne. Alors, ils ont fait, dans la résolution du Conseil de sécurité, ils ont donné une place très importante, apparemment, à la question palestinienne, parce qu'il fallait satisfaire à la fois les Arabes et bien sûr les Russes et les Chinois, pour qui la solution à deux États est tout à fait centrale. Parce que c'est leur politique, et pour les Arabes, parce que c'est la pression de leurs opinions publiques. Donc il fallait absolument mettre en avant la création d'un État palestinien. Mais si on regarde le texte tel qu'il est, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de contorsions pour dire les choses, des choses simples. Et je vais simplement vous relire le texte. Et on fera tous nos efforts pour créer les conditions qui pourraient finalement être mises en place pour tracer un chemin crédible, ça veut dire acceptable par Israël, vers une autodétermination palestinienne et un statut d'État. Vous voyez, on ne dit pas on va créer un État de Palestine, on tourne quand même beaucoup. Donc cette solution à deux États, c'est vrai qu'elle est remise dans le jeu diplomatique mondial, mais c'est à l'issue d'un très long cheminement qui, en plus, implique de réformer l'autorité palestinienne, c'est-à-dire que telle qu'elle est, elle n'est pas acceptable par Israël. Donc, bon, tout ça, on peut appeler ça une perspective à long terme. Il semble bien que ça suffise aussi bien aux Arabes, aux Russes et aux Chinois pour donner leur accord, et on peut ainsi avancer.
Oui. Alors, la question qu'on se pose, Daniel, si ce vote est un élément qui nous permet aujourd'hui, en novembre 2025, d'être optimiste sur le futur.
Alors, ce vote, c'était un préalable, mais ce qui reste, ce qui donne l'optimisme dans ces accords du 15 octobre, c'est surtout leur contenu. Vous savez qu'il y a trois phases. Or, c'est quoi les phases 1 et 2? C'est la satisfaction totale donnée aux objectifs d'Israël, c'est-à-dire récupérer les otages, c'est fait, et puis surtout désarmer le Hamas, et surtout empêcher que Gaza devienne un terrain pour d'autres milices terroristes qui pourraient surgir ou permettre au Hamas de revenir. Donc il faut protéger Gaza, il faut le neutraliser pour l'avenir. Ça, c'est la phase 1 et 2 qui est vraiment 100% pour Israël. Alors maintenant, c'est surtout la phase 3 qui est importante, c'est-à-dire l'avenir. C'est le cœur des accords de Sharm el-Sheikh, où là on parle relativement plus de la question palestinienne ni de Gaza, on parle de l'établissement d'une sorte de base de stabilité au Moyen-Orient par une alliance, ou un partenariat plutôt, entre Israël, tous les pays arabes, Tout ça étant supervisé et garanti par les Américains. C'est une sorte de base forte pour le Moyen-Orient face à l'Iran. C'est une des grands objectifs de ce partenariat, c'est se défendre face à l'ennemi commun qui est iranien, mais en plus à un objectif économique. Travaillons ensemble pour donner de la prospérité à ce Moyen-Orient. Et donc tout ça dépend évidemment de la position des Arabes. Et la clé, c'est l'Arabie Saoudite. Or, le lendemain du vote du Conseil de sécurité, qui était lundi dernier, mardi, Mohamed Ben Salman arrive à Washington. Et là, on voit des images absolument incroyables où il se tape sur le ventre avec Trump. Et donc, on renoue avec un accord qui a été passé en 1945 entre Roosevelt et le grand-père de Mohamed Ben Salman, qui est une protection, une garantie de la famille Saoud sur son territoire, en échange évidemment d'avantages pétroliers ou autres pour les Américains. Donc, si vous voulez, tout cela, ça s'appelle les accords d'Abraham, au fond, élargis à l'Arabie Saoudite, et c'est ça la perspective qui nous rend optimistes, si elle peut arriver, évidemment.
Dans ce plan, Daniel, quelle est la place au fait de la question palestinienne?
Alors la question palestinienne, elle peut pas être ignorée parce qu'elle est à la fois un symbole pour l'ensemble du monde musulman, pour les opinions publiques arabes. On les a tellement habitués par la propagande à considérer que c'est le cœur de tout. Propagande qui est renforcée par les analyses, par exemple, de la France, du Quai d'Orsay, qui dit que c'est la question palestinienne qui est la clé de toute la paix au Moyen-Orient. C'est pas vrai, mais il y en a qui pensent que c'est nécessaire de le dire. Donc, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la traiter. Donc, cette question, elle doit être traitée parce qu'elle est un symbole et aussi parce qu'elle est un obstacle. Il faut trouver une solution. Alors, comment la traiter intelligemment? La première chose, c'est en la retirant des mains de l'Iran. Parce qu'aujourd'hui, la question palestinienne, elle a été gérée par l'Iran à travers le Hamas. Donc ça, c'est une confirmation que le Hamas doit disparaître. Et tout le monde est d'accord là-dessus, y compris tous les États arabes. Deuxièmement, en confiant aux États arabes le soin de gérer cette question palestinienne qui est compliquée, qui va prendre du temps à être résolue, puisqu'il faut d'abord neutraliser le Hamas, il faut neutraliser Gaza, il faut réformer l'autorité palestinienne, il faut trouver des nouveaux leaders palestiniens qui soient raisonnables, c'est-à-dire qui soient prêts à faire la paix avec Israël. Et enfin, il faut mettre fin à l'éducation de la haine anti-juive. Vous voyez, là, on en a pour quelques années, voire des dizaines d'années. Et donc, puisque ça prend du temps, il faut trouver une couverture, il faut trouver une enveloppe qui permette de gérer le temps et pour que tout ce processus se mette en place. Et ça s'appelle d'une certaine manière une tutelle des pays arabes sur la Palestine. On parle de mandat arabe sur la Palestine. Alors évidemment, les Palestiniens sautent au plafond parce qu'ils estiment qu'ils sont capables d'avoir l'indépendance immédiatement. Mais un, ils n'en sont pas capables, et deux, Israël ne l'accepterait pas puisque ce serait suicidaire. Donc, à la rencontre des deux, eh bien la solution, c'est se donner du temps. Et ce temps, c'est de confier dans la durée la gestion de ce qu'on appelle la Palestine, c'est-à-dire les morceaux qui sont aujourd'hui disjoints, Gaza et la West Bank, sous un contrôle à la fois des Arabes, mais aussi sur une surveillance sécuritaire israélienne qui doit être hyper vigilante et qui, elle, est acceptée par les États-Unis. Donc, vous voyez, on a un petit peu de temps devant nous, mais il faut la gérer, cette question.
Oui, pour conclure, Daniel, en une petite minute, et ça lancera nos conversations prochaines, selon vous, la question est un peu large, hein, mais ces accords peuvent-ils fonctionner?
Écoutez, c'est un équilibre entre des forces positives et négatives. Ce qu'il y a de positif, c'est la volonté américaine, c'est la volonté des Arabes et Israël aussi, hein. Évidemment, Bibi a protesté sur l'idée quand on mentionne l'État de Palestine, il saute au plafond, mais il peut pas faire autrement et il sait bien qu'il n'y a pas vraiment d'alternative. Mais il y a beaucoup de forces négatives, en particulier tout ce qui est islamisme et en particulier porté par deux États qui sont des amis des Américains, la Turquie et le Qatar, qui jouent un double jeu. Donc on voit qu'il y a une balance entre les forces positives et négatives. Et Et finalement, l'important, ça sera les opinions publiques. Il va falloir alors les opinions publiques, elles sont bercées à une propagande épouvantable. Donc, il faut essayer de renverser tout ça. Donc, il y a un travail de réinformation à faire. Et puis, il faut de la chance parce que tout ce processus qu'on met en place vers la paix, il est à la merci d'un attentat majeur. Et donc, là, on sent que toutes les polices du monde entier et tous les services du renseignement sont mobilisés parce que on est en danger d'attentat, parce que c'est avec un attentat qu'on peut espérer mettre fin à ce processus de paix.
Daniel Haber, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Judaïka. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles conversations.
À la semaine prochaine, au revoir.